Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Depuis près d'un mois, les internautes passionnés de gastronomie ont été invités par Europe 1.fr et Google Plus à préparer la première nuit blanche de la gastronomie, une opération baptisée la cuisine des étoiles. Et c'est demain soir qu'aura lieu, à l'initiative de Jean-Luc Petit-Renaud et en partenariat avec Elle à Table, le dîner exceptionnel de la cuisine des étoiles, organisé s'il vous plaît au cœur du marché international de Rungis par 4 grands chefs et 2 meilleurs ouvriers de France. Et si je ne m'abuse, le chanceux Franck Ferrand fait partie des invités. Et bonjour,
oui.
Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Sans même avoir eu besoin d'être tiré au sort, vous imaginez, je suis très excité à l'idée d'être de ce dîner du siècle. Et ça m'a donné envie d'inviter notre ami Jean-Luc Petit-Renaud à se joindre à nous. C'est toujours une fête quand
évidemment.
Il est là. Et l'esprit déjà parti pour le marché de gros, j'ai l'intention de vous parler aujourd'hui de l'histoire des Halles.
Émile Zola avait surnommé les Halles le ventre de Paris, et c'est d'ailleurs le titre d'un roman qu'il a publié en 1873 et dont l'action se passe sous le Second Empire.
Et oui, dans les années 1858-60, sous les pavillons de métal et de verre flambant neufs construits par l'architecte Baltar, on était à une époque où ce centre d'approvisionnement de Paris était tout simplement le plus grand marché de denrées du monde. C'était un univers à part entière, avec ses mœurs, ses habitudes, avec ses petits métiers, vous allez voir, avec son langage bien particulier. Vous parliez de dépaysement tout à l'heure, Julia. Vous allez voir que c'est un monde à part entière que nous allons découvrir.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
On dit souvent que le Paris que nous avons sous les yeux est le Paris d'Haussmann, mais on oublie généralement que la plus spectaculaire des créations parisiennes du Second Empire a disparu. C'était les 12 pavillons de Baltard et Calais, des pavillons de verre aux armatures métalliques dont Napoléon III avait lancé la construction au tout début de son règne et qui furent inaugurés par l'impératrice en 1857. De vastes pavillons accueillant l'un la farine et la boulangerie, un autre la viande, un autre les légumes, encore un autre la crèmerie, etc. Des pavillons éclairés par quelques 1200 becs de gaz et qu'Émile Zola, avec sa verve naturaliste, devait immortaliser dans son fabuleux Ventre de Paris. Dans ce roman, le héros, qui s'appelle Florent, c'est un évadé de Cayenne, Florent, il a été déporté à la suite d'une erreur judiciaire, il a été déporté par erreur, disons, à la suite du coup d'État de 1851. Florent, donc, découvre le tout nouveau marché des Halles. Je laisse la parole ou la plume à Émile Zola. Les trois rues du carrefour, la rue Montmartre, la rue Montorgueil, la rue Turbigot l'inquiétèrent. Elles étaient encombrées de voitures de toutes sortes, des légumes couvraient les trottoirs. Alors il alla devant lui jusqu'à la rue Pierre-Lescot où le marché aux cressons et le marché aux pommes de terre lui parurent infranchissables. Il préféra suivre la rue Rambuteau, mais au boulevard Sébastopol, il se heurta contre un tel embarras de tapissières, de charrettes, de chars à bancs qu'il revint prendre la rue Saint-Denis. Là, il rentra dans les légumes. Aux deux bords, les marchands forains venaient d'installer leurs étalages, des planches posées sur de hauts paniers, et le déluge de choux, de carottes, de navets recommençait, les Halles débordait. Il essaya de sortir de ce flot qui l'atteignait dans sa fuite. Il tenta la rue de la Cossonnerie, la rue Berger, le square des Innocents, la rue de la Ferronnerie, la rue des Halles, et il s'arrêta, découragé, effaré, ne pouvant se dégager de cette infernale ronde d'herbe qui finissait par tourner autour de lui en le liant aux jambes de leur mince verdure. Au loin, jusqu'à la rue de Rivoli, jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville, les éternels fils de roues et de bêtes attelées se perdait dans le pêle-mêle des marchandises qu'on chargeait. De grandes tapissières emportaient les lots des fruitiers de tout un quartier. Des chars à bancs dont les flancs craquaient partaient pour la banlieue. Rue du Pont-Neuf, il s'égara tout à fait. Il vint trébucher au milieu d'une remise de voitures à bras. Des marchands des quatre saisons y paraient leur étalage roulant. Ce formidable, ce gigantesque, tentaculaire marché des Halles s'était donc installé dans les fameux pavillons métalliques et vitrés tout neufs, certes débordant très largement, vous le voyez, sur toutes les rues du centre de Paris. Mais en vérité, le marché, lui, n'était pas nouveau. Ça faisait 750 ans, ça faisait 7 siècles et demi que les Halles, ou plus exactement la Halle, comme on disait au Moyen-Âge, occupait tout ce quartier parisien au centre de la rive droite. Et dire qu'au départ, tout ça se trouvait en plein champ. C'est en 1111, ça c'est une date facile à retenir, je vous poserai la question demain, tiens Julia.
Je note 1111.
C'est en 1111 que le roi Louis VI, Louis le Gros, a décidé de déplacer le principal marché parisien, qu'on appelait le marché Palu. Jusque-là, ce marché encombrait en effet la place de Grève, notre actuelle place de l'Hôtel de Ville. Et donc le roi, pour décongestionner la ville, pour la libérer, si vous voulez, déjà à cette époque, au XIIe siècle, Louis le Gros décide d'exiler les marchands et les vivriers hors des murs de la ville et de faire construire une très grande halle en plein milieu des champs, près du lieu dit les Petits Champs, vous voyez la rue des Petits Champs, hein, qui se nommait à l'époque les Champeaux. Alors peu à peu, la ville de Paris s'est développée, elle a débordé de ses murs, Philippe Auguste a créé de nouveaux remparts, vous savez, plus vastes, et puis Charles V à son tour, et les Champeaux se sont peu à peu trouvés englobés dans la ville. En 1269, Saint-Louis avait fait construire 3 nouvelles halles à côté de la première, alors à ce moment-là on s'est mis à parler des halles au pluriel, même si l'habitude est demeurée de dire la halle, pour désigner non pas l'endroit, mais le groupe humain, le groupe social constitué par toute la foule grouillante des marchands, des commis, des porteurs, on les appelle les forts des halles, des négociants, des convoyeurs, en fait, etc. Très importante, la halle de Paris, dans l'histoire de France. Il y a eu un temps, on a un peu oublié ça, mais ça a duré quand même quelques siècles, il y a eu un temps où la politique du royaume se faisait en partie dans ce cœur battant de Paris, dans l'univers étrange, dans l'univers surchauffé qu'était la halle, entre Saint-Eustache et le cimetière des Innocents. À l'époque de la guerre de Cent Ans, c'est la halle qui, avec Étienne Marcel, fait la révolution et massacre les conseillers de Charles V. C'est encore la halle qui, un peu plus tard, lapide le connétable d'Armagnac et livre la capitale aux Anglo-Bourguignons. C'est la halle toujours qui fomente les barricades contre Henri III, qui appuie la Fronde, qui décide en 1789 d'aller chercher à Versailles le boulanger, la boulangère et le petit Mitron, entendaient Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin. Sous l'Ancien Régime, les dames de la halle, c'est-à-dire les commerçantes qu'on appelle volontiers les harangères, participent à tous les grands événements publics. Elles viennent présenter leurs compliments aux reines de France quand celles-ci ont accouché. Elles ont leur prince protecteur, le duc de Beaufort, le grand dauphin, fils de Louis XIV, le régent Philippe d'Orléans. Bref, ce que nous appelons les halles ont longtemps constitué le carrefour de toutes les informations, de toutes les rumeurs, de tous les mouvements d'opinion. Il était donc très important pour le pouvoir en place de se faire bien voir de cette espèce de chaudron d'opinion. À la fin du règne de Louis XVI, en 1780, les halles doublent de surface grâce à l'expropriation de 7 millions de Parisiens. Vous vous dites qu'est-ce que c'est que ces 7 millions de Parisiens? Ils n'étaient pas très durs à exproprier puisqu'ils étaient tous morts depuis longtemps. On décide en effet à cette époque-là de vider de ses ossements le grand cimetière des Innocents et de réinhumer tous les ossements dans les anciennes carrières d'enfer, hein, au sud de Paris, sous l'actuelle place d'enfer Rochereau. Ça fait beaucoup de place libérée d'un coup et ça permet aux halles de s'étendre. C'était devenu vraiment plus que nécessaire, c'était vital. Par la suite, Napoléon, puis surtout Louis-Philippe, vont se charger, comment dire, d'assainir, de rationaliser autant que faire se peut, de moderniser les halles, qui sont devenues le plus grand marché de la planète, une sorte de concentration de marchandises qui déborde de partout sur tout le centre de Paris. Et donc, finalement, c'est Napoléon III qui va commander à Baltar ces halles modernes, en fer et en verre, que nous décrit si bien Émile Zola.
Composé par Francis Lemarque, Franck.
Alors pour bien faire, il faudrait vous lire ici des dizaines de pages du chef-d'œuvre de Zola qui, dans le ventre de Paris, atteint les sommets de l'inspiration naturaliste. Laissez-moi seulement citer une de ses pages les plus évocatrices, celle où Zola évoque le réveil des Halles, vous savez, aux toutes premières lueurs du petit matin. Zola nous parle d'une cité tumultueuse dans la poussière d'or volante. Le réveil avait grandi, écrit-il, du ronflement des maraîchers couchés sous leurs limousines, au roulement plus vif des arrivages. Maintenant, la ville entière repliait ses grilles, les carreaux bourdonnaient, les carreaux, c'est les différents centres de vente, hein. Les pavillons grondaient, toutes les voix donnaient, et l'on eût dit l'épanouissement magistral de cette phrase que Florent, depuis 4 heures du matin, entendait se traîner et se grossir dans l'ombre. À droite, à gauche, de tous côtés, des glapissements de criers mettaient des notes aiguës de petites flûtes au milieu des basses sourdes de la foule. C'était la marée, c'était les beurres, c'était la volaille, c'était la viande. Des volées de cloches passaient, secouant derrière elles le murmure des marchés qui s'ouvraient. Autour de lui, le soleil enflammait les légumes, pardon. Il ne reconnaissait plus l'aquarelle tendre des pâleurs de l'aube, les cœurs élargis des salades brûlaient, la gamme du vert éclatait en vigueur superbe, les carottes saignaient, les navets devenaient incandescents dans ce brasier triomphal. À sa gauche, des tombereaux de choux s'éboulaient encore. Il tourna les yeux, il vit au loin des camions qui débouchaient toujours de la rue de Turbigot. La mer continuait à monter, il l'avait senti à ses chevilles, puis à son ventre, elle menaçait à cette heure de passer par-dessus sa tête. Il y a dans ces halles tentaculaires décrites par le grand écrivain quelque chose de très angoissant finalement. Le refuge du héros est dans les caves qui se trouvent évidemment au sous-sol, sous les différents pavillons. Pris d'anxiété nerveuse, écrit Émile Zola, Florent descendait aux caves par le large escalier qui se creuse au milieu du pavillon. Là, dans l'air renfermé dans le demi-jour des quelques becs de gaz, il retrouvait la fraîcheur de l'eau pure. Il s'arrêtait devant le grand vivier où les poissons vivants sont tenus en réserve. Il se plaisait aussi le soir au beau coucher du soleil qui découpait en noir les fines dentelles des halles sur les lueurs rouges du ciel. La lumière de 5 heures, la poussière volante des derniers rayons entrait par toutes les baies, par toutes les raies des persiennes. C'était comme un transparent lumineux et dépoli où se dessinaient les arêtes minces des piliers, les courbes élégantes des charpentes, les figures géométriques des toitures. À chaque heure, les jeux de lumière changeaient ainsi les profils des halles, depuis les bleuissements du matin et les ombres noires de midi, jusqu'à l'incendie du soleil couchant s'éteignant dans la cendre grise du crépuscule. Mais, par les soirées de flammes, quand les puanteurs montaient, traversant d'un frisson les grands rayons jaunes comme des fumées chaudes, les nausées le secouaient de nouveau, son rêve s'égarait à s'imaginer des étuves géantes, des cuves infectes d'écarisseurs où fondait la mauvaise graisse d'un peuple. J'espère seulement que vous n'êtes pas à table. Mais si c'est le cas, rassurez-vous, Jean-Luc Petit-Renaud est là et lui connaît les mots qui mettent en appétit.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec Franck, vous invitez aujourd'hui sur Europe 1, Emmanuel Friedman, qui est journaliste, auteur du livre Le rêveur des Halles chez Calman Lévy. Et comme promis avec nous aussi, Jean-Luc Petit-Renaud, qui est critique gastronomique, pardon. On le retrouve le dimanche sur Europe 1 avec le bistrot du dimanche de midi à 13h précisément. Également sur France 5 avec les escapades de Petit-Renaud. Il vient nous présenter la cuisine des étoiles qui est réalisée sous son parrainage en partenariat avec Europe 1 et à la table.
Et ça commence dès maintenant, ça commence fort cette émission. Ce qui est bien avec Jean-Luc Petit-Renaud, c'est qu'on est dans la dégustation d'emblée.
Dans la dégustation permanente.
Il est arrivé avec sa bouteille de Sancerre, là, donc on a chacun notre petit verre, notre petit blin, comme dirait mon ami Alain
avec
Berger. Et il y a déjà des petits effluves dans ce studio. Enfin voilà, on est presque dans le climat des Halles. Alors le grand dîner, c'est pour demain soir, Jean-Luc?
Oui, c'est pour demain soir. D'abord sur l'atmosphère, parce qu'on ne peut pas parler des Halles sans créer une atmosphère,
bah,
même si on est dans un studio hermétique. Ici à Europa, c'est pour ça que je vous apportais un tout petit breuvage à boire avec modération, mais qui fait quand même plaisir à tout le monde pour raconter l'histoire que vous avez magnifiquement d'ailleurs évoquée juste avant. Mais oui, le grand dîner des étoiles, c'est demain soir. Ça veut donc dire qu'une centaine d'internautes, Europa a été partenaire avec elle à table, et puis moi j'ai orchestré voilà cette histoire simplement pour dire que dans ces médias vivant que sont les connexions de gens virtuels, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément ensemble, mais on est en même temps ensemble.
Il y a un peu de réel quand même, de temps en temps.
Mais il y a quand même du réel. Et il y avait quatre chefs de cuisine, Bertrand, ce sont les plus grands de France, plus des artisans, sommeliers, ou Marie Quatre-Hommes aussi, qui est meilleure fromagère de France, MOF. Et donc, ces gens ont reçu, par le biais de l'Internet, ont reçu des sortes de missives, de témoignages, et ils sont venus aux portes de la cuisine pour des rencontres. Et ça a duré un mois, et Europe 1 était témoin de ça. Je le relatais, et je le relate toujours le dimanche dans le bistrot du dimanche, et simplement ils sont là pour dire pour quelle raison vous mettez pas l'anchois à un moment donné, pour quelle raison. Et moi, j'avais une crainte terrible, c'est que finalement les internautes prennent la main sur la cuisine. C'est-à-dire qu'ils disent « Moi, j'aurais fait la sauce tomate à tel moment et tout. » Parce qu'il faut se méfier, quand on se met à bavarder, on ne parle plus. Donc on bavasse et on ne parle plus. Et là, les internautes ont été absolument, mais fantastiques. Respectant ces fameux dieux de la cuisine qui ont des étoiles ou ces artisans. Et ils ont été en partenariat avec eux uniquement pour connaître et tout. C'est un vrai festival et demain soir, il y aura cette fameuse nuit des étoiles, cette cuisine des étoiles à Rungis, où nous allons tous partir en autobus devant Europe 1. Nous allons partir vers cette aventure. Tous ces chefs vont cuisiner. On aura quelque chose d'assez étonnant.
Et les internautes seront là aussi, bien entendu.
Bien sûr, il y aura 120 internautes. Ouais. Et puis, ils feront aussi la découverte du premier, dans leur ville, le premier marché aux poissons. Ce que ça veut dire de choisir les rougets de Cancale, etc., juste avant l'heure de l'ouverture. Ça va être une nuit formidable pour eux. Je suis fier d'avoir parrainé cette histoire.
Mais moi, je suis fier, très modestement, et dans mon petit coin d'y participer, je ne vais pas laisser ma place.
Ah mais bien entendu, quel dîner hein.
Ça va être quelque chose, j'imagine. Oui. C'est une émission de gens audacieux aujourd'hui. Bien sûr, l'audace de Jean-Luc Petit-Renaud n'est plus à vanter, mais alors celle d'Emmanuel Friedman n'est pas mal non plus, puisque après le grand, après l'immense Zola, vous vous êtes attaqué, vous aussi, Emmanuel Friedman, au ventre de Paris. Vous situez un roman qui se passe au tout début du XXe siècle, donc juste avant la Première Guerre mondiale et puis même pendant la Première Guerre mondiale. Vous situez votre roman au cœur de cette espèce de chaudron bouillonnant qu'étaient les Halles. J'ai envie de dire les vraies Halles, non que Rungis ne soit pas un marché extraordinaire aujourd'hui encore, mais évidemment il y avait une atmosphère qui était beaucoup plus prégnante là lorsque tout ça se passait au plein cœur de Paris.
Effectivement, mais moi j'ai tout de suite pensé que ça pouvait faire un décor de roman exceptionnel. Effectivement, depuis Zola, ça n'avait jamais été fait.
Et pour cause, oui, c'est un peu intimidant, évidemment.
Oui, c'est vrai, c'est un peu intimidant, mais en même temps, pas tant que ça, justement, parce que je trouve que ça aurait été peut-être plus intimidant si ça avait été repris plusieurs fois par différents auteurs. Et justement, donc là, j'avais un peu un quartier libre.
Oui, c'est le cas de le dire.
Et oui, voilà, oui, exactement. Et puis, du coup, effectivement, pour moi, c'était formidable d'imaginer toutes les senteurs, tous les mets, tous les légumes, tout le brassement social et culturel qu'il pouvait y avoir à cet endroit-là.
Ce que vous nous racontez dans ce livre, c'est l'histoire d'un petit bistrot, enfin d'un restaurant de Halles, hein, précisément. Alors c'est un restaurant que vous avez imaginé, qui s'appelle La Poule au Pot, mais qui nous fait penser à un certain nombre de maisons bien connues, évidemment, Jean-Luc Petit-Renaud. Ce qu'il faut dire peut-être pour situer ces restaurants, c'est que non seulement tous ces bistrots bénéficiaient de la proximité des Halles, et évidemment, lorsque vous êtes levé à 2h du matin et que vous avez travaillé d'arrache-pied pendant toute la matinée, il ne faut pas vous en compter, vers 13-14 heures, il faut vous servir un solide repas. Mais il bénéficiait aussi de la vieille tradition de l'arrivée de la marée par la rue Montorgueil, hein, ça remontait au Moyen-Âge. Et donc il y avait une concentration dans ce quartier de tous les meilleurs produits possibles, ce qui justifiait les plus belles tables.
Oui, mais vous imaginez un peu le cirque dans cet endroit, celui qui dormait au-dessus à 2 heures du matin, qui était réveillé par la marée, celui qui rentrait du spectacle de théâtre le soir. Les Halles étaient au cœur de Paris comme une sorte de cœur qui palpite au milieu de la poitrine. Ça veut dire qu'on n'avait pas sorti un cœur. Vous savez, Rungis, ça ressemble aujourd'hui, j'adore Rungis, mais ça ressemble à un cœur qu'on aurait extrait de la poitrine, qu'un cardiologue aurait mis juste en périphérie du squelette du bonhomme. Alors que là, il y avait tout se passait là. Est-ce que vous saviez qu'au pied de cochon, par exemple, on était
on acceptait les... Il y avait Jean Gabin, il y avait tous ces gens-là qui, après le spectacle, venaient casser la croûte. Et en bout de zingue, il y avait les clochards. Et les clochards pouvaient manger les... Pas les restes des assiettes, mais c'était... On les acceptait. Vous imaginez la belle tolérance. On acceptait ces gens, ces SDF en bout de zingue pour qu'ils puissent manger. Et Gabin passait, laissait toujours un billet. C'était au pied de cochon.
Il y avait un brassage invraisemblable.
Et puis surtout, ça veut dire que quand on se réveillait le matin, ça sentait la salade, ça sentait les navets, ça sentait la province. Province était
arrivée, brassée,
comme ça, aux Halles. Et puis, on avait l'impression qu'on n'avait pas trop la nostalgie de notre Aveyron, de notre Bretagne, puisqu'on passait et on avait les effluves. Et on avait comme des cartes postales écrites par une grand-mère à travers les navets frais qui étaient là. Des marées de choux et de navets, ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que je trouve que c'est qu'est-ce que il y a rien de plus beau. Ça veut donc dire que c'était une nourriture d'abord de la mémoire et après c'était une nourriture certes efficace pour passer à table, mais c'était une nourriture de la mémoire, de la nostalgie, du petit train qui allait rejoindre la Bretagne ou l'Aveyron, et que ça a de la gueule, mais une gueule formidable. Et tout à l'heure, Francis Lemarque l'évoquait si bien avec son accordéon.
À Paris. Aurélie nous demande en quelle année les Halles ont disparu et ont été remplacées par le Grand Marché de Rungis. Mais on y vient, Aurélie, patience, on y vient tout à l'heure. Avant ça, on vous aura parlé des différents petits métiers, du gaveur de pigeons, des réveilleuses, de l'employé aux yeux de bouillon et même du marchand à Lazare de la Fourchette.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous faisons les courses cet après-midi sur Europe 1, au cœur, dans le ventre de Paris, aux Halles précisément.
Ces Halles, il faut vous dire, Julia, qu'elles se réveillaient très tôt. C'est-à-dire que tout commençait à s'animer aux alentours de 2h30, 3h du matin à peu près, au moment d'ailleurs des premières arrivées de ce qu'on appelle les tapissières, c'est tout simplement de grandes voitures plates qui sont tirées par des bœufs ou par des chevaux, généralement par des percherons, par des gros chevaux, et sur lesquels on peut entasser le plus de marchandises possible. Alors, pour se réveiller, pour ceux qui étaient là, pour les maraîchers, pour les négociants qui se trouvaient sur place et qui dormaient notamment, ce qu'on a oublié, dans tous les appartements qui se trouvaient dans la partie supérieure des Halles de Baltard, tout ça fait partie du folklore et aujourd'hui on a un peu oublié ça, il y avait ce qu'on appelait les réveilleuses. Alors, les réveilleuses, c'était généralement des jeunes femmes, inutile de vous dire que c'était des filles du peuple, évidemment, qui pour 2 sous par personne, allait réveiller les gens. Et alors, elle pouvait se faire en moyenne, nous dit Maxime Ducamp qui raconte ça, elle pouvait se faire entre 20 et 25 personnes par jour, donc ça leur faisait 40 sous par jour. Bref, elles avaient presque un franc. Ça permettait de survivre. Alors, elle faisait, pour réveiller les gens, ce qu'on appelait le cri du hibou. Vous allez me dire, pourquoi pas le cri de la chouette? Mais parce qu'au Halles, on était républicain dans l'âme et que la chouette, c'était les Vendéens, c'était les royalistes, donc surtout ne pas parler de la chouette. Et puis, il y avait... Alors, toutes sortes de petits métiers, on n'en finirait pas, il faut qu'on en évoque quelques-uns, notamment les gaveurs de pigeons. Le pigeon, c'était, Jean-Luc va nous dire ça dans un instant, c'était le plat du roi, c'était vraiment le mets raffiné par excellence. Et pour que les pigeons, après avoir voyagé, les pigeons étaient toujours un peu mal en point, pour qu'ils reprennent une belle apparence bien dodue, eh bien, on les gavait. Alors, il y avait un gaveur de pigeons qui s'emplissait la bouche d'eau tiède et de grains de vesse, et il prenait les pigeons à une vitesse absolument vertigineuse, et d'un coup, en soufflant littéralement dans le bec du pigeon, il le gavait comme ça. Et on faisait avaler de force 4 ou 5 grains à chaque pigeon, ce qui faisait qu'évidemment, au bout de 3 jours, les pigeons, ils avaient retrouvé belle apparence. C'est des petits métiers qui, évidemment, ont carrément disparu de la mémoire, ça.
Vous savez que ça ressemble un peu au baiser de, finalement, de Robert Doisneau,
oui,
quoi. C'est-à-dire que sur la bouche, on faisait un baiser, aux pigeons. Moi, je trouve ça extrêmement joli, poétique et tout. C'était une vie tranquille. Vous savez, je vais pas vous semer le cirque ici, mais...
C'est déjà un peu fait.
Mais dans cette sorte de mondialisation où on a enlevé un petit peu tous ces petits métiers, on a, bien sûr, on peut pas revenir en arrière, mais il y a quelque chose de cette poésie qui nous manque. C'est-à-dire que, vous savez, le plus grand photographe des Halles était, entre autres, Robert Doisneau. C'était celui qui venait voir les charrettes, qui venait voir la DS, c'était la voiture, la DS Citroën avec le coffre ouvert et la belle auberge bourgeoise de Paris qui rentrait les homards dans le coffre, qui déposait les riz de veau et tout. Et puis, on allait boire le champagne. Il y avait un bistrot aux Halles qui s'appelait Chez la Vieille. Et la vieille, c'était Adrienne, une cuisinière. On l'a appelée la vieille, elle avait 22 ans. Vous imaginez, on l'appelait déjà, on va aller boire un verre de champagne chez la vieille. Simplement, sur un plan commercial, je voulais vous dire que c'est elle qui a vendu le plus de champagne à Paris. Pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce que tous ces mareyeurs, ces bouchers, tous ces types venaient fêter leur contrat. Tap-tap dans la main, et ils venaient
On avait fait une bonne affaire, on allait chez la vieille.
Et on allait chez la vieille, et c'était rue de l'Arbre Sec. Voilà, c'était toutes ces rues où il y avait une palpitation de la vie, avec les flics, avec tout le monde cautionné, finalement, ce débord de vie. Parce que le petit matin permet ça, le petit matin permet le débord de la vie. Et ce n'est pas une invention, c'est quelque chose de très frais. Ça veut donc dire, quand vous débordez de vie, au petit matin, à ce moment-là, vous êtes un homme célèbre pour le reste de la journée.
Et puis il y avait ce mouvement, cette espèce de roulement permanent. Alors les maraîchers arrivaient donc en pleine nuit, ils déchargeaient toutes leurs marchandises, là on donnait un peu de picotin au cheval, parce qu'il ne faut pas oublier que pour beaucoup, ils avaient fait beaucoup de voyages. Hein. Certains partaient à 18-19 heures pour être au milieu de la nuit à Paris. On nourrissait donc la bête, et là on allait prendre un bouillon. D'où la nécessité d'avoir des établissements qui étaient ouverts, vous le montrez bien, ça, Emmanuel Friedman, c'était ouvert 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24.
Quasiment, effectivement. Il y avait même des gens qui venaient déposer qui prenaient le restaurant comme un vestiaire, qui déposaient leurs vêtements. Et il y avait des gens qui obtenaient, quand les travailleurs des Halles venaient décharger, aider un patron, on leur donnait un petit ticket qui s'appelait un pourboire, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Et effectivement, ils échangeaient ce petit ticket contre un godet qui pouvait être un verre de vin, un café. Voilà, effectivement, c'était un espèce d'aller, de retour, d'effervescence perpétuelle.
Et puis ce murmure, et puis ce grouillement. On voit ça, par exemple, en arrière-fond d'un film comme Irma la Douce, hein, de Billy Wilder, où l'on voit cette vie des Halles avec ces cajots qui s'entassent constamment partout. À l'époque, on n'était déjà plus aux voitures à chevaux, on en était aux estafettes à moteur. Mais il y avait toujours, on peut dire, jusqu'à la fin des années 60, puisque les Halles ont fonctionné jusqu'en 67, elles ont déménagé officiellement en 69. Il y a eu jusqu'à la fin des années 60 cette espèce de grouillement au cœur de Paris, dans le ventre de Paris.
Sur Europe 1, une petite musette à Paris, Franck.
Alors, ne croyez pas que tout soit très appétissant dans les Halles. Hein. Vous avez bien compris que ce surentassement invraisemblable, ces montagnes, ces collines de choux, ces ravins de carottes et de navets, et puis il y avait tous les fromages, si bien décrits du reste par Zola. J'avais envie de vous lire ça, mais je ne peux pas. Mais la page que Zola consacre au paysage, littéralement, de tous ces fromages qui, la journée avançant, commencent à fondre et à dégager des exhalaisons à la limite du supportable, tout ça, bien sûr, ça fait partie des Halles. Et puis, il y avait des métiers qui n'étaient pas tous très ragoûtants. Les maraîchers, d'abord, disons-le, quand ils avaient fini, quand ils avaient bien mangé, ils reprenaient leurs bêtes et leurs remorques, et ils s'en allaient chargés de boue, disait-on. Qu'est-ce que c'était que les boues? Honnêtement, disons-le clairement, c'était toutes les ordures du quartier qui repartaient pour faire de l'engrais, parce que on arrivait avec des denrées fraîches et on repartait avec de l'engrais, donc tout ça n'était pas forcément très très agréable. C'est Privat, alors Privat d'Anglemont, ça c'est un personnage qui est mort très jeune malheureusement, mais qui était un véritable observateur de la vie parisienne. Et il nous parle, alors lui, de petits métiers totalement oubliés, notamment de ce qu'il appelle l'employé aux yeux de bouillon. On servait dans les restaurants, et probablement à la Poulopo aussi, on servait un bouillon dont la vertu principale était d'être gras. Parce que si le bouillon était peuplé de petits yeux à la surface, ça voulait dire qu'il avait été riche, il avait été nourri au gras de poule. Or, bien souvent, les bouillons qu'on avait à présenter aux gens étaient très maigres. Alors, on avait une solution. Voilà ce que dit Privat d'Anglemont, je le cite. « Un homme prend une cuillerée d'huile de poisson dans sa bouche. À l'heure de l'ordinaire, serrant les lèvres et soufflant avec force, il lance une espèce de brouillard qui, en tombant dans la marmite... » Ah ben non, Julia,
je vous écoute avec attention. J'allais dire bon appétit, bien sûr.
« Qui, en tombant dans la marmite, ce brouillard forme les yeux qui, plus tard, charmeront les consommateurs. » Et voilà comment on s'y prend. Et puis, pour ceux qui n'avaient vraiment pas les moyens d'aller s'offrir un repas à la poule au pot, eh bien, ils pouvaient toujours se rendre à ce qu'on appelait l'hasard de la fourchette. C'est le hasard, mais à l'époque, oh oui, il y a le parler des Halles, hein. Il y avait toute une sorte de patois des Halles, du reste, qui avait, avec son accent, avec sa façon de parler, le louchébem, vous savez, le langage des bouchers est un peu issu de cette tradition-là. On allait donc à l'hasard de la fourchette. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était une immense marmite. C'était des marmites qui faisaient à peu près la circonférence de la table autour de laquelle nous sommes assis. Là, ça faisait près de 2 mètres. Dans ces marmites, on mettait tous les restes de viande, dont ne voulaient plus les marchands qui étaient ramassés pour 3 fois rien. On mettait tous ces restes de viande à mijoter dans une sorte de grand ragoût qui était constamment alimenté d'une journée sur l'autre. Et on vous donnait une fourchette qui faisait 80 cm de long quand même, une fourchette à 2 dents, et vous aviez droit à une tentative. Donc avec la fourchette, vous piquiez dans l'espèce de marmite sans rien voir. Et puis là, c'était au petit bonheur la chance. Parfois, vous ramassiez un joli morceau et parfois, vous n'aviez qu'un morceau de gras ou un os. C'était pas de chance. On appelait ça se nourrir à l'hasard de la fourchette. Ça coûtait tout simplement 1 sou le coup.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Chapitre sur Europe 1 composé par Richard Galliano. Il sert d'indicatif.
C'est les escapades de Petit Renaud.
Exactement, c'est sur France 5 et c'est le dimanche à midi, Jean-Luc.
Oui, exactement, dimanche, samedi midi et dimanche midi. Je suis à l'heure de l'apéritif et la belle musique de Galliano. Ça rencontre Francis Lemarque, qu'il a une manière comme ça de compter les faubourgs de Paris ou les faubourgs de ma gourmandise et ça me plaît beaucoup.
J'ai entre les mains d'Henri Gougaud un petit ouvrage réédité par Albin Michel dans l'esprit de l'époque qui s'appelle « Au bon bec ». Ça fait partie des Bibles, Jean-Luc.
Ah ben ça, c'est un petit livre magnifique. Vous savez, il est sur ma table de nuit et je lis comme ça un petit chapitre toutes les heures parce que Henri Gougaud est un magnifique conteur et il a réveillé des choses. Moi, j'aime beaucoup parce que il est en dehors de ce pays. On a l'impression qu'il a un pied dans la réalité et il a un pied dans la nostalgie et il raconte comme ça des jolies choses. C'est un très beau livre, ça s'appelle Au bon bec et c'est raconté par Henri Gougaud. C'est une sorte de petite romance gourmande, voilà, comme très légère.
Alors, un autre ouvrage à placer sur vos tables de nuit, c'est celui d'Emmanuel Friedman qui s'appelle « Le rêveur des Halles » avec en couverture une très jolie gravure colorée de l'époque 1880-85 où l'on voit cette foule bigarrée se presser autour de ce qu'étaient les grands pavillons des Halles, malheureusement remplacés par ces architectures épouvantables qui ont défiguré ce quartier. Hein, c'est affreux, ces Halles affreuses qu'on est en train aujourd'hui de remanier un petit peu. On va essayer de leur donner, je pense, une nouvelle jeunesse et j'espère une fraîche beauté. Le rêveur des Halles, c'est donc l'histoire d'Octave. Il faut raconter un peu ce que l'aventure que vous nous contez dans ces pages, Emmanuel Friedman. Vous suivez en fait la destinée d'un petit garçon qui perd sa maman très jeune, qui est élevé par son père. Or, son père est précisément le patron de la poule au pot.
Le père d'Octave, c'est le père Magnin, et lui, il n'a qu'une idée, c'est que son fils reprenne le restaurant La Poule au Pot, qu'il soit restaurateur comme lui, et qu'il ait envie de manger toute la journée, de servir les gens et d'aller au marché.
Manque de chance,
son gamin est rêveur.
Est un rêveur.
Et lui, il aime la littérature, il aime aller à l'école, et voilà, tout de suite, ils vont s'affronter de façon assez violente. Et puis finalement, le petit garçon Octave, c'est une sorte de roman d'initiation, va finir par aimer les Halles, par s'approprier ce quartier, par rencontrer des tas de gens différents qui vont du marché d'Arlequin à la vendeuse de légumes, à tous ces copains, les copains de l'école qui ont tous arrêté.
Vous dites tous ces copains, on a l'impression que la population est très jeune dans ces Halles en fait, hein. Il y a beaucoup, et pour cause, pour porter des cajots et des balles très très lourdes, il faut évidemment...
Il faut être assez jeune, ouais, on sent oui, une effervescence perpétuelle. Quoi. Les gamins, dès l'âge de 10 ans, ils vont aider, ils vont porter des petits paniers, ils vont aider leurs parents, ils tiennent un stand, ils font la cuisine, ils travaillent.
Ils sont dans la vie de la famille.
Oui, c'est ça, ils sont dans la vie de la famille.
Et quel bonheur, ils ne sont pas déconnectés, ils ne sont pas sur Facebook ou Internet, ils sont dans la vie de la famille.
Oui, c'est ça qui me plaisait, c'est organiser ce melting-pot social, c'est-à-dire qu'effectivement, les gamins croisent les filles de joie, les bourgeois viennent s'encanailler dans le quartier, enfin, c'est assez fantastique, quoi. C'est, voilà, il y a effectivement, on mange dans le même restaurant, on se croise, on se connaît, et qu'est-ce qu'il y a comme autre quartier comme ça maintenant? Aucun. Enfin, il y a des quartiers à bobos, mais les bobos connaissent pas forcément les pauvres. Enfin, non, c'est très différent.
Pardon de casser un peu l'ambiance, mais évidemment, derrière toute cette gouaille vivante et extrêmement chaleureuse se cachaient aussi tous les drames et misères de l'humanité qu'elle trimballe partout avec elle. Et c'est ce que nous montre Zola dans son roman, évidemment, avec cet épouvantable sort qui est réservé au héros du roman, à Florent, hein, puisqu'il est rejeté au sens quasi physique du mot par cette communauté des marchands qui sont quand même des petits bourgeois dans ce qu'ils ont de plus étriqué et de plus bête. En tout cas, ça, c'est la vision naturaliste d'un Zola, hein, de l'époque. Et vous nous montrez aussi des gens qui ont quand même énormément de préjugés, qui sont quand même corsetés et qui vivent pleinement tous les drames d'une existence qui n'était pas du tout protégée à l'époque, hein. On prend tout en pleine face.
Bah, il n'y a pas d'assurance sociale. Quand on se blesse, on doit continuer à travailler ou on tombe dans la pauvreté. Mais il y a quand même toujours moyen de glaner quelque chose. C'est-à-dire que les vagabonds pouvaient glaner, pouvaient toujours donner un petit coup de main et obtenir en retour un petit peu de nourriture. Enfin, c'était quand même une période où on mourait pas de faim. Hein, franchement, enfin, c'est ça aussi, hein, qui me plaisait comme univers, c'est parce que effectivement, maintenant, la nourriture, elle est loin. Il faut aller au supermarché, on n'a plus de contact direct avec.
Elle est sous cellophane, elle est presque dématérialisée, comme nous le laissait entendre Jean-Luc Petit-Renaud il y a un instant. À l'époque, on la prend à bras le corps, et évidemment, quand vous travaillez aux Halles, même si vous êtes le plus pauvre des pauvres, et même si vous n'avez la chance que de l'hasard de la fourchette, néanmoins, vous ne pouvez pas mourir de faim parce que vous êtes au milieu du temple même de la nourriture qui arrive là par foison.
Voilà, puis il y a plein de différents métiers comme les marchands au petit tas qui n'avaient pas assez d'argent pour se payer un stand mais qui vendaient devant les pavillons sur le parvis à côté de l'église Saint-Eustache. Il y a les marchands d'Arlequin qui vendent des morceaux.
Faut dire ce que c'est que ça, ces marchands d'Arlequin.
Ou alors ils récupéraient dans les poubelles des grands restaurants des morceaux de homard pas consommés, des morceaux de crabe qui revendaient.
Ils recyclent les rossignols en fait.
Voilà, exactement. Ouais,
il y a tout un langage d'ailleurs, les arlequins, les rossignols, il y a tout ce langage de la cuisine qu'on retrouve aujourd'hui dans les restaurants, mais qui au départ, ne l'oublions pas, Jean-Luc, était un langage des Halles, bien entendu.
Mais parce qu'on était dans une vie où on utilisait la vie comme moteur. On était loin des subventions pour quelqu'un qui va réfléchir chez lui pour savoir si un jour il va être un héros ou pas et à qui on va donner une forme d'argent. Donc c'est évident, pardonnez-moi, mais c'est pas réactionnaire, c'est simplement que tout le monde, là, sur ce terrain absolument formidable, sur cette scène parisienne qui était le plus grand théâtre qu'étaient les Halles, il y avait des gens qui arrivaient à trouver leur petit métier, qui arrivaient à trouver leur déclinaison, qui arrivaient à trouver leur bonheur, parce que tout le monde chapardait, tout le monde était vivant, mais il y avait là une force, mais une force extraordinaire. Le gamin qui remplissait le coffre de la déesse de l'aubergiste bourgeois de Créteil ou de Corbeil, il avait sa pièce et il vivait bien. Il y avait une forme de reconnaissance, de l'aide, de gens comme ça. C'est un petit peu différent, puisque maintenant, si vous voulez, c'est vrai que celui qui ne va pas bouger, il aura une aide. Donc, on est un petit peu dans quelque chose d'autre. Mais ça fait un peu réactionnaire ce que je dis. Mais
évident.
Je pense que, si vous voulez, sur les Halles, c'était quelque chose de très présent. Et il y avait une vraie présence de l'humanité,
de fraternité,
de
gens qui se connaissaient,
de gamins.
Les gamins
étaient avec les prostituées. On s'en foutait, parce que c'était des sortes de grandes sœurs qui protégeaient. Et tout ça vivait bien ensemble. Tout ça a fait un pays et tout ça a fait une gloire et une à nouveau le joli mot, joyeuseté.
Je vois Roland Pérez qui s'installe pour l'émission qui va suivre.
Mais
et qui ouvre
aussi joyeux que nous.
Oui, qui ouvre devant nos verres de Sancerre et les effluves qui doivent s'en dégager.
J'adore entendre Jean-Luc Petit-Renaud.
Martine nous dit, mes grands-parents, nous dit Martine, habitaient rue Quincampoix, dans les caves étaient rangés les diables. J'étais très fier de mon grand-père qui était le meilleur tasseur de chou-fleur des Halles. Il avait 19 frères et sœurs et plusieurs travaillaient aux Halles, qui dans la viande, qui dans les fleurs, etc. Leur immeuble existe toujours, mais son standing n'a évidemment plus rien à voir avec la modestie d'autrefois. Merci de ce témoignage, Martine. Quant à Catherine, elle nous recommande le livre « Des fourchettes dans les étoiles » de Béatrix de L'Aulnoy et Philippe Alexandre que nous avions reçu en votre compagnie, Jean-Luc. Il nous emmène, dit-elle, sur le chemin de l'histoire de la gastronomie française en retraçant ce que les virtuoses de la gastronomie nous ont offert et que nous gardons encore bien ancré au fond de notre mémoire collective. C'est cette mémoire-là que nous essayons évidemment de faire ressurgir cet après-midi, qui est une mémoire intellectuelle, mais qui est aussi une mémoire visuelle et une mémoire olfactive. Qu'est-ce que ça pouvait sentir, les Halles, autrefois? Ça sentait, dit-on, à un arrondissement de distance. Hein. On aurait presque pu se rendre au pavillon Baltard, simplement en se guidant par l'odeur.
Mais bien entendu, parce que c'était simplement, il y avait de la vie. Et vous savez, aujourd'hui, à couper la vie, on ne fait pas de jolis hommes et de jolies femmes. Et que ça faisait du bien, parce que autour des navets, des poissons et de toutes les viandes, il y avait de la vie. Bordel, il n'y a que de la vie. Et la vie, on l'a enlevée du centre de Paris, c'est un peu dommage.
De la vie dans le rêveur des Halles également, le roman d'Emmanuel Friedman s'est publié chez Calman-Lévy.